Je vais essayer de vous parler d'un mot qui, quand il a surgi dans la communauté analytique par la bouche de Lacan, a fait un peu l'effet d'une bombe et qui mérite de continuer à le faire. C'est le mot de soi-même. L'analyste ne serait autorisé que de soi-même et d'essayer de rendre compte de ce qu'est cette énigmatique de soi-même. Lacan nous a laissé l'idée qu'il y aurait différents discours. Discours du maître, où le maître parle, s'autorise de son nom, de son patronyme, qui n'est pas, donc s'autoriser de soi-même, de son patronyme qui fait autorité, car parler avec autorité, ça n'a rien à voir avec s'autoriser. Le discours universitaire, selon Lacan, c'est un discours qui, comme vous l'avez remarqué il y a 5 minutes, mon ami Gérard Pommier s'autorise du maître, du savoir du maître. Le discours hystérique, ça serait le discours qui s'autorise du désir du maître. Et voilà ce quatrième discours qui n'est pas que le propre de l'analyste, qui est le propre d'un sujet qui ose s'aventurer dans l'acte de création, qui s'autoriserait de soi-même. Alors, à quoi se réfère le réel de ce de soi-même? C'est un réel qui ne se rencontre qu'à travers une expérience oscillant entre la crainte au sens biblique et la jouissance. J'aborde la question ainsi, c'est que signifie la sorte de tremblement, voire d'effroi, qu'un sujet au bord de produire cet acte? J'ai eu l'occasion, et peut-être que d'autres ici ont eu également l'expérience, de jeunes analystes qui demandent un contrôle, et le fond de leur question, c'est, se disant lacanien, je m'autorise de moi-même, mais dans le fond, si j'étais autorisé à cet acte, comme le proposent les structures de l'IPA, ça serait quand même beaucoup plus facile, parce que comment est-il possible, sans que ce soit une imposture, de s'autoriser de soi-même? Tremblement, crainte. En quoi cet acte ne serait pas que narcissique, que capricieux? En fin d'analyse, je pense qu'à un moment donné, dans l'analyse, nous rencontrons cette question de la façon suivante. Le sujet qui s'oriente dans la vie, en analyse, est dans un temps amené à se situer par rapport à la loi. La loi lui donne certaines directions pour s'orienter, l'assomption de la loi donne certaines directions, mais l'analysant découvre un jour que quand il s'agit non pas de soutenir le légal ou le légitime, mais qu'il s'agit de soutenir simplement le fait d'exister, l'existence en tant que telle, il découvre que la loi non seulement n'est pas un support, mais que la loi tend à contester l'attestation possible de l'existence. Parce que attester que j'existe, c'est aussitôt découvrir que exister, rien ne justifie d'exister, qu'il n'y a pas de justification à exister. Ce qu'on appelle la culpabilité, dont le péché originel donne une expression géniale, ce qu'on appelle la culpabilité, c'est ce qui pousse un sujet à considérer qu'il doit justifier qu'il existe. C'est ça la culpabilité. Justifier, non pas que j'ai fait ceci ou cela parce que ça, ça mérite d'être justifié. Mais il y a un point de réel qui est l'existence, qui est un point inconditionné et inconditionnel qui n'a pas à être justifié, qui cependant a à fonctionner dans le cadre de la loi. Et toute la question, c'est d'articuler le droit de la loi avec l'énigme de l'existant, du droit à l'existence. À ma connaissance, Lacan est le premier à avoir mis l'accent sur le fait que l'expérience analytique doit à la fois assumer et la dimension de la loi par l'intermédiaire de Moïse, commentaire de Lacan des 10 commandements dans l'éthique de la psychanalyse, et en même temps à assumer quelque chose de la position d'Antigone qui outrepasse, comme vous le savez, l'autorité du nomos pour prétendre qu'elle s'autorise sans que ce soit pour autant une imposture comme le pense Créon. Lacan pose ces deux éléments, nous laisse à penser comment doit s'articuler le droit d'exister avec la loi. Quand il dit « l'analyste ne saurait s'autoriser que de lui-même et de quelques autres », il ramasse en une formule la position d'Antigone, s'autoriser de soi-même et de quelques autres, c'est en fait en même temps la reconnaissance de la loi qui fait foi dans un groupe de citoyens. Donc c'est une formule condensée sur laquelle je voudrais réfléchir, qui fait que c'est en ce point que la psychanalyse est liée aux politiques, parce que en tant qu'analyste, nous ne pouvons pas ne pas retenir la leçon qu'une société qui fonctionne uniquement avec la loi positive en récusant le droit naturel, qui est le premier acte de la société nazie, est une société assassine. Inversement, une société qui fonctionne exclusivement, qui veut fonctionner exclusivement sur le droit naturel, 1789, en récusant la loi, induit la possibilité d'apparition de ce que nous appelons, 3 ans après, 1792, la terreur. Donc, ça c'est le rapport que nous avons à la politique, et nous devons aller un peu plus loin du point de vue psychanalytique. La crainte de ne pas être justifié dans l'acte d'exister, elle est si grande que l'on peut observer des cas ou des sujets extrêmement courageux, prêts à donner leur vie. Je pense par exemple, parce que c'est commode pour parler de cette affaire, à Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac est l'homme de tout le courage, de toutes les bravoures, qui expose sa vie au combat avec un panache inégalable. Et lui, l'homme qui ne craint pas de mourir, il tremble tellement au moment d'avoir à exister, au moment de dire 3 mots « Je vous aime » à Roxane, qu'il ne parvient jamais à le dire, sauf à la fin de sa vie, quelques instants avant de mourir. J'accentue cela pour que nous sentions que s'autoriser implique un acte de création, un acte qui implique le oui qui est proféré dans cette énonciation, qui est un acte, peut donc créer une angoisse plus grande que celle de mourir. Il y a donc au sein de la procréation humaine quelque chose qui fait trembler. Ce tremblement, Lacan a choisi de se référer à l'expérience de la crainte biblique, c'est-à-dire il utilise cet affect de la crainte devant l'être devant Dieu, comme pour lui, c'est ainsi qu'il l'a ramené à sa clinique, comme le point ou le sujet en rapport avec le signifiant le plus primordial est amené à vivre la situation où se produit, dans l'enseignement de Lacan, point de capiton, c'est-à-dire un point où le signifiant cesse de flotter, comme l'esprit flotte au-dessus de la terre, cesse de flotter pour, on pourrait dire, pour s'incarner, pour prendre corps. Cette crainte, une des raisons pour lesquelles j'ai parlé du nom impassibilité, manifeste que le sujet qui est amené à dire oui au signifiant le plus primordial produit un oui qui n'est pas l'inscription passive du signifiant dont on peut avoir l'idée quand Freud nous donne l'ardoise magique et on peut avoir l'impression que le signifiant s'inscrit dans la cire vierge. La question, c'est cet affect semble indiquer qu'il y a une activité dans la passivité de la subjectivité primordiale qui connote le fait qu'au moment où apparaîtrait cette subjectivité primordiale se produit cet affect d'extrême crainte qu'il faut pouvoir rencontrer, sur lequel je vais essayer donc de m'avancer. Parce que ce oui est sans doute l'acte le plus, ce oui énonciatif, qui fait que quand un sujet parle, et s'il s'autorise, ça s'entend. Ça s'entend parce que on entend à travers son dire l'existence d'un oui, et je vais commenter la Bejahung dont parle Freud, et la façon dont Lacan a commenté, la première fois où il introduit le réel dans son enseignement, comment il introduit le réel à partir de la question de cette Bejahung, de ce oui primordial, je dirais que s'entend, si un sujet est en place de s'autoriser, s'entend qu'un oui est à l'action, et un oui qui n'est pas qu'un oui passif, c'est un oui procréateur. Et voilà ce que dit Lacan, la première fois qu'il commente ce oui, c'est Bejahung, c'est dans le cadre de son entretien avec Hippolyte, il dit la Bejahung, je cite de mémoire, je vais peut-être me tromper, qu'il recommande Freud, n'est rien d'autre que l'acte primordial par lequel le réel humain est porté à l'être. Donc, la Bejahung est un acte procréateur qui a le pouvoir de hisser à l'être le réel. Ainsi, la Bejahung est ce par quoi il y a une échéance du réel qui advient. Toute l'énigme est de comprendre que cette procréation, échéance du réel par la Bejahung, en quoi l'échéance du réel est en rapport avec le réel que l'on reconnaît le plus souvent comme un lieu de déchéance. Et effectivement, Lacan, commentant le terme freudien de Ausstoßung, de rejet, attribue au terme freudien de Ausstoßung, de rejet, la contribution au réel. Autrement dit, il s'agit de penser en quoi le réel est à la fois le fait d'une échéance et d'une déchéance. La difficulté est de comprendre en quoi échéance et déchéance peuvent se conjuguer en un seul acte en produisant un réel dont je vais parler, qui est tout à fait différent de l'acte d'échéance et de déchéance qui sont le propre du moi, parce que dans l'article sur la dénégation, Freud attribue au moi et au principe de plaisir, également au nom du plaisir, un acte de déchéance, de rejet, qu'il appelle Werfen, pas Werwerfung, mais Werfen, et d'introjection, d'échéance, d'introjection qu'il appelle Introjigiren. Le problème, c'est que le type de réel introduit là par expulsion et introjection aboutit à une conception sphérique où, de façon dualiste, existe un bon dedans et un mauvais dehors, ainsi traité par le principe de plaisir. C'est donc pas de ça dont il s'agit. Il s'agit d'un réel qui n'est pas l'effet d'un dualisme traité par le moi et le principe de plaisir, qui est beaucoup plus énigmatique. Je veux donc signaler que quand Lacan commente l'énigme de ce oui originaire, il s'affilie aussitôt au présocratique. Et il dit même que si Freud avait utilisé le terme de Beaung, c'est que, sans avoir lu Heidegger, il prétend que Freud n'a pas eu besoin de lire Heidegger pour connaître les présocratiques. Cette affiliation aux présocratiques tient à ce que Lacan reconnaît que l'expérience analytique doit à la découverte des présocratiques la dimension de la différence ontologique entre l'être et l'étant. Différence ontologique entre l'être et l'étant, dans lequel lui, il s'engouffre avec sa propre théorisation. Il va attribuer à cette scission le Eros et Thanatos d'Empédocle, instruisant Freud, attribuant à Eros la gestion du monde des étants, des objets, l'ordre libidinal, et attribuant à Thanatos, qu'il nomme l'ordre symbolique, le règne de l'être. La scission que Lacan, au début de son enseignement, établit entre l'univers donc, d'Eros et de Thanatos se recoupe pour lui dans le repérage de la distinction ontologique être et temps. Si la question de la façon dont les Grecs abordent l'être et les temps, c'est-à-dire l'idée d'une physis qui cesse, ça c'est ce que Lacan reçoit de Heidegger, la physis cesse d'être traduite par le mot nature, mais revient à son sens originaire de verbe physein, qui signifie ce qui croit, ce qui surgit, ce qui apparaît, le pouvoir d'apparition. La physis, donc les Grecs, pour les Grecs, c'est donc la découverte d'une multitude d'étangs qui surgissent de façon vivante et périssable, coupés de l'existence de la supposition d'un être au-delà des étangs qui perdure, qui est éternel, immuable, increvable, qu'un philosophe comme Thalès a supposé identifiable à l'eau, un autre philosophe au feu, un autre philosophe à l'air, jusqu'à ce qu'un philosophe de génie ait eu l'idée de ramasser tous ces qualificatifs en portant au plus haut niveau d'abstraction l'être, en le nommant l'être, Parménide. Ça, c'est un coup d'audace incroyable, une abstraction radicale au-delà, nommé comme tel par Parménide. Le problème, donc là où nous nous rapprochons de la clinique analytique, c'est que cette distinction être-étant, qui n'est pas source d'éthique encore, c'est un surgissement qui concerne la nature et surgissement donc d'une force qui se manifeste, qui est si peu douée d'éthique que c'est elle qui va être appelée par les nazis pour justifier l'homme naturel à rien, un homme qui surgit dans les bois, dans les forêts, à partir de la nature. Il faut bien comprendre cette différence ontologique, en quoi elle est différente de ce qui apparaît quand ce dont il s'agit, ce n'est plus la nature, mais l'homme. À partir du moment où les philosophes grecs prennent en charge l'homme en compagnie des tragiques, ce dont il s'agit, c'est de prendre en compte, qu'il y a de la nature, mais réglée par un droit naturel, par un droit naturel, qu'un droit régit. Et voici comment l'idée, vous le savez, je le redis rapidement, comment l'idée du droit naturel arrive aux Grecs, de la même façon que Parménide isole l'unicité de l'être derrière les étangs, les philosophes grecs découvrent qu'au-delà de la multitude des manifestations de la loi écrite, qui est pour eux le nomos, ils découvrent qu'au-delà de la multitude contradictoire des lois écrites qui se contredisent d'un pays à l'autre, parce qu'ils ont l'avantage d'être des voyageurs qui repèrent les coutumes du nomos dans des tas de pays différents, ils découvrent qu'au-delà de la multitude des lois écrites existe une loi intangible qui ne change pas et qui ne s'écrit pas et qui ne passe pas dans l'écriture du nomos. Et ils nomment cette loi « loi non écrite ». Et c'est cette loi non écrite qui va être à l'origine de ce qu'on va appeler le droit naturel. C'est au sujet du rapport de cette loi naturelle et de la psychanalyse que l'association insistante organise un colloque à l'UNESCO au mois de novembre pour approfondir cette question en compagnie d'hommes politiques et de créateurs artistiques et de philosophes. Alors, cette loi non écrite, qui est derrière la manifestation multiple du nomos, elle se manifeste de plusieurs façons en Grèce. C'est-à-dire que les Grecs repèrent très tôt, eux qui sont passionnés par l'éducation, que l'éducation donnée aux enfants par l'intermédiaire du langage, parlé et écrit, par l'intermédiaire du nomos, ne donne aucune garantie pour qu'un citoyen soit un citoyen vertueux dans l'avenir. Il se rend compte que des citoyens vicieux, pervers, comme Alcibiade par exemple, qui a subi le meilleur des enseignements, finalement ne connaissent pas la justice d'Iké. Et il suppose donc qu'il échappe au pouvoir des hommes de transmettre la Iké, loi non écrite. Cette loi d'ailleurs que les présocratiques avaient supposée comme régnant pour organiser une justesse et une justice dans le cosmos, en équilibrant les forces contradictoires. Donc, la religiosité grecque pensait que pour arriver aux hommes, il fallait que la Iké soit transmise en somme par une révélation imputable à Zeus, qui voulait aider les citoyens à être civiques en leur transmettant le sens de la justice et de la honte. Aristote nous amène autre chose. Dans sa rhétorique, il nous amène, là il a des accents tout à fait lacaniens, pour la première fois, c'est le premier texte où je vois apparaître le mot s'autoriser. Et Aristote dit ceci, je cite de mémoire, L'existence du droit naturel pousse un sujet à s'autoriser à énoncer ce droit naturel. Comment connaît-il ce droit ? Aristote se pose la question et il emploie un mot extrêmement intéressant pour nous. Il substitue au terme de révélation par Zeus. Il dit non, c'est pas ça. Il substitue le terme de divination. Il suppose donc que l'homme grec, et en particulier, là il évoque la célèbre Antigone, que si Antigone peut faire valoir le droit naturel à enterrer son frère, c'est au nom de la divination de l'existence, du fait qu'un homme mort, fût-il un assassin, a le droit naturel d'être enterré. Pourquoi est-ce un conflit tragique et pas un conflit politique qui apparaît entre Antigone et Créon ? Ça serait un conflit politique s'il était écrit dans la constitution du nomos thébain « On enterrera tout homme, fût-il assassin ». Il y aurait donc un conflit entre deux conceptions du nomos, entre Antigone et son nom, et ça serait un conflit politique. Ça n'est pas un conflit politique, c'est un conflit tragique, parce que Antigone prétend s'autoriser à affirmer au nom d'un droit dit naturel, fusis, que son frère doit être enterré. Voilà l'apparition du conflit tragique et du conflit dont nous héritons dans une cure analytique, pour autant que le lieu de l'analyse, le divan, est peut-être le lieu où le débat tragique a aujourd'hui un refuge et un lieu d'expression. Maintenant, je veux amplifier la question et faire remarquer que le s'autoriser tragique d'Antigone est une chose. Mais pour l'approfondir, il faut repérer qu'elle est indissociable du lieu où elle se produit, c'est-à-dire sur ce lieu inventé, on ne sait pas trop pourquoi, par les Grecs, qui s'appelle la scène. Le lieu où la production du sujet va pouvoir s'écrire. Avant de penser, je vais essayer de le faire, comment on peut concevoir d'un point de vue psychanalytique la question de la création de la scène, comment fonctionne le oui qui est à l'origine de ce signifiant qu'est la scène, je veux déjà d'emblée caractériser la scène par deux de ses aspects fondamentaux. D'abord, c'est un lieu dont la particularité est d'être un lieu vide, vidé de tout signifiant, de tout signifié, de tout objet. C'est un lieu dès lors où, à perte de vue, le regard n'est plus limité par le fantasme de l'objet cause du regard. C'est un lieu aussi qui n'est plus limité par le fantasme de l'objet auditif qui donne accès dès lors à l'amplitude de l'inouï. Par ailleurs, c'est un lieu dont l'énigme est qu'il incarne un réel qui est orienté. Quiconque monte sur la scène, un danseur par exemple, s'il agit selon la scène, vous observerez qu'il est orienté. Il ne va pas dans n'importe quel sens. Il l'indique par un mouvement du pied, du nez, du doigt. Et songez à ce que Lacan découvre quand il travaille sur le symptôme de Joyce, quand il découvre que la grande nouveauté avec le symptôme humain, qui n'est pas que le propre Joyce, c'est de découvrir qu'un réel est orienté. Comme j'ai plus que 6 minutes, je vais un petit peu vite, mais gardons à l'esprit de l'idée d'un réel orienté. L'invention Donc, de ce lieu vide nous pose cette question, c'est comment devons-nous comprendre le verbe, c'est un verbe au sens de Lacan, qui peut produire l'énonciation fiat trou. C'est ainsi que Lacan propose de traduire fiat lux. Qu'est-ce que ce verbe? Comment ce verbe a-t-il le pouvoir de créer ce fiat trou? Et cette invention de ce fiat trou ne se fait pas passivement, comme je l'ai dit. Je pense que c'est l'invention humaine la plus radicale par laquelle le sujet traumatisé parvient à être soustrait à la fascination du traumatisme qui requiert le regard pour échapper au mal vu médusant et accéder à un autre type de trou qui n'est pas le trou réel du traumatisme, un trou d'une autre nature qui est ce trou de la scène vidé en particulier du regard médusant du traumatisme. Je dis quelques mots sur, selon moi, ce que pourrait être l'invention du symptôme par Freud. Quel serait son symptôme? De même que Joyce aurait un symptôme et que Lacan aurait un symptôme, c'est d'inventer le réel. Eh bien, ce que je veux dire en deux mots, c'est comment Freud, le symptôme de Freud, c'est d'inventer le mot, l'existence d'un mot. Je veux dire par là, il nous laisse un rêve dont le commentaire nous permet de dire ceci. Rêve où il a l'audace de nous dire que, le rêve d'Irma, qu'il revit l'expérience traumatique devant la gorge béante d'Irma. Son regard fasciné le laisse devant l'expérience traumatique. Un temps logique suivant passe par l'idée proposée par Lacan, que je trouve une très belle idée, c'est qu'il parvient à substituer au regard du non-sens une question sur le non-sens, et Lacan prête à Freud la capacité de se hisser du regard à un début de signifiance qui ferait dire au rêveur Freud « Qu'est-ce que c'est que ça, que ce truc que je suis en train de voir, cet abîme, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et c'est là qu'apparaît l'origine du symptôme de l'invention. Parce que « qu'est-ce que c'est que ça ?» ça pose le sujet Freud en position de faire un choix, un pari. Qu'est-ce que c'est que cet abîme? Ça veut dire, est-ce qu'il y a autre chose que l'abîme? To be or not to be? Est-ce qu'il y a un au-delà de ce que montre le réel, c'est-à-dire un réel troué sans espoir? Et le symptôme de Freud, je dirais, c'est d'oser parier contre ce que montre la nature monstrueusement, un trou béant, d'oser parier que dans la question « to be or not to be » il répond « to be ». Il y a un mot. Et le mot, c'est celui qui s'affiche dans son rêve « triéthylamine ». Indépendamment de l'interprétation de triéthylamine, le point fondamental, c'est que devant la question, il parie de répondre. Et il parie de dire « il y a ». Et c'est ainsi que je vais comprendre l'invention radicale de l'inconscient de Freud et de l'inconscient humain, l'invention de la scène, ce qu'on appelle ce lieu. Eh bien, je le comprends ainsi. Ce lieu, par rapport à la question « to be or not to be » que tout humain peut se poser, c'est sans doute la raison pour laquelle Hamlet est la pièce la plus jouée du monde. Je suppose que ce lieu advient de la façon suivante. Le sujet se posant cette question, c'est-à-dire « ou bien to be, ou bien not to be », il y a une production de l'inconscient, d'une audace inouïe, qui dépasse le dualisme de la question et qui propose de produire un signifiant qui dit to be de point not to be, c'est-à-dire un signifiant qui dit il existe un signifiant de l'absence de signifiant. Il existe un signifiant, c'est grand S, De l'absence de signifiant, Lacan écrit « apparaît ». Ce signifiant le plus énigmatique chez Lacan, « S de grand A barré », il est aussi bien commenté « fiat trou ». « Fiat », c'est « il y a », »,« trou », c'est « il n'y a pas ». Autrement dit, c'est l'idée d'un signifiant où « il y a », « il n'y a pas » sont conjugués ensemble et non pas dans leur dualisme. Et cette conjonction qui revient à ce que je disais au début, conjonction du réel échu dans la Beyaung et du réel déchu par l'Austosung. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ce que je veux dire, parce que c'est très complexe de concevoir ce qu'est le signifiant du manque de signifiant, parce que c'est ça la scène, le signifiant d'un lieu vide, d'un lieu vidé, mais signifiant, présent. Je prendrai l'exemple, c'est un oxymoron, l'exemple du contraste entre la lumière et la couleur. La lumière et la couleur se mélangent, s'opposent et se mélangent, pour autant que la lumière, c'est « il y a », et la couleur est liée au fait que des longueurs d'onde sont rejetées par l'organe récepteur. La rose rejette le rose, et c'est pourquoi le rose apparaît mélangé au « il y a » de la lumière. Il y aurait d'autres exemples, c'est des notes de musique qui sonnent réellement, qui sonnent « il y a » et qui disposent du pouvoir de faire entendre ce qui ne s'entend pas, que je nomme l'inouï. Il y a de l'audible et de l'inouï en même temps, S de grand A barré. Pour conclure, avec le temps qui me reste, je voudrais vous donner quelques indications pour comprendre le pouvoir stupéfiant que détient la scène de métamorphoser, de transfigurer quiconque s'y aventure, dans la mesure où le pied du danseur posé sur la scène est réellement un pied qui crée un contact extrêmement particulier. C'est pas que le pied est sur la scène, c'est que le pied établit un contact avec la scène qui signifie « en toi, je suis chez moi », ce à quoi la scène répond en tant que signifiant vivant « en moi, tu es chez toi ». Il y a une compénétrabilité du fond et de la figure dont Matisse a parlé à sa façon. La scène qui est la toile blanche est très active dans la peinture. La peinture n'est pas déposée sur la toile, mais la toile et compénétrante dans les couleurs qui apparaissent. Ce que je veux dire, c'est que le danseur sur scène, aussitôt bouge-t-il, aussitôt est-il mu par un mouvement dont je dirais qu'il n'est pas l'auteur, s'il capte les vibrations qui viennent de la scène auxquelles il dit, il peut dire oui. C'est en disant ce oui qu'il procrée, S de grand abarré, qu'il procrée cette scène. En disant oui, ce S de grand abarré, je dirais, il le fait sien, le faisant sien, ça devient ce qu'on peut appeler le signifiant S2 du refoulement originaire. Et il y a une sorte d'étreinte entre deux types d'infini. L'infini qui est proposé par la scène, pour autant qu'elle est un lieu d'immaîtrisabilité, perte de tous les objets, de tous les signifiants, donc il y a un lieu d'immaîtrisable qui ouvre à la dimension de l'infini, et je dis étreinte parce que l'introduction de cet infini, ce n'est pas sans rapport avec ce qui advient dans l'être quand il intègre ce signifiant qui devient signifiant du refoulement originaire. Dès lors que le sujet danse sur cette scène, il ne tient plus en place à cause du mouvement propre qui est dans ce signifiant, et je dirais, ça n'est pas le muscle qui le meut. Ce qui le meut, c'est qu'il ne peut pas rester en place du fait que les lois temporo-spatiales sont abolies et que cette dimension de l'infini fait qu'il ne peut pas faire autrement que de bouger. C'est sans doute ça la source de ce mouvement énigmatique de la pulsion. Cette poussée dont Freud ne comprenait pas l'origine, il disait cette excitation interne à l'origine de la pulsion, c'est parce que scientifiquement, je ne peux pas l'observer et la comprendre, que je suis obligé de dire par honnêteté intellectuelle que la pulsion est un mythe. Et c'est pour ça qu'il dit la pulsion est notre mythe. Nous pouvons dépasser l'idée mythique de la pulsion à partir du moment où on comprend que ce que Freud appelait l'excitation interne, nous pouvons le nommer autrement. Nous pouvons le nommer signifiant. Signifiance. Et signifiance, cette articulation originaire qui précède l'imaginaire entre le réel et le symbolique. Le fait que sur cette scène, non seulement le mouvement est constant et sa caractéristique, c'est d'être un mouvement sans cause, contrairement à l'objet du désir qui est causé par un objet, si le mouvement induit sur la scène est sans cause, et causa suit, cause de soi, c'est observable par le fait que le danseur, entre la musique qu'il entend et le mouvement qu'il exécute, il a, et vous l'avez tous expérimenté, il n'y a aucun temps de latence. C'est instantané, la transformation est instantanée, ce qui signifie que l'effet et la cause sont mélangés. Causa suit. Ce mouvement constant, sans cause au sens aristotélicien, eh bien, je dirais, et je vais conclure là-dessus, en disant qu'il s'associe au fait, à l'apparition de l'accroissement d'un désir. L'accroissement d'un désir qui, quand il cesse d'être fantasmatique, la scène vide, quand il cesse d'être fantasmatique, le sujet, alors, peut voir à perte de vue, peut également cesser d'être guidé par ce qu'il entend. Il y a un accroissement du désir qui va vers une direction X, qui n'est plus orientée par un objet. Lacan parlait de désir X. Je pense que c'est pas sans rapport avec ça. Pour vous donner une dernière indication sur ce que c'est que ce qui apparaît quand l'objet du regard et l'audition disparaissent, j'ai évoqué Cyrano de Bergerac, je le fais une dernière fois. Cyrano ne peut pas parler, dire « je vous aime » parce que s'il parle, survient l'idée que va surgir sa laideur et son ridicule. Son fantasme, c'est cette vision limitée qui l'amène à cette limitation d'action. Christian, son compère, a le problème inverse, il ne peut pas se déclarer parce que s'il parle, lui qui est très beau, il n'a pas peur d'être laid, il a peur d'être con. Que ce qui s'entend va être absolument ridicule, et effectivement, il fait rire Roxane. Eh bien, je dirais, ce qui apparaît avec le surréel, terme de André Breton, à mon avis, c'est peut-être dans ce terme de surréel que Lacan a pêché le mot réel, ce qui apparaît avec le surréel, c'est l'excès, l'amplitude du désir quand il n'est plus orienté par le désir fantasmatique. Et Lacan conclut, je conclus avec lui là-dessus, conclut qu'une fin d'analyse peut se conclure sur la découverte d'une possibilité d'un désir au-delà du fantasme qui donne vie à un certain rapport nouveau, pas encore exploré, dit Lacan, sauf auprès de certains de mes analysants, ajoute-t-il. En fin d'analyse. Donc, je conclue sur cette question. Cette ouverture de l'amplitude est-elle quelque chose que nous sommes en droit d'attendre de la fin d'une analyse ? c'est-à-dire la possibilité de s'autoriser à la procréation de ce réel Beyaung Aristosung, un oui qui n'est pas contredit par le non, pour qu'une nouvelle subjectivité s'assume.
Merci. Merci à Alain Duvel. Je voudrais souligner, avant de passer la parole à la salle, j'ai deux questions à poser à Alain Didier-Veil. J'aime bien l'inouï, moi, dans ces colloques, et je suis beaucoup apprécié cette interprétation au sens mathématique du terme, hein, de ces quatre discours que je vous redis, tels que Alain nous l'a donné, hein. Le maître s'autorise de son patronyme, l'universitaire s'autorise du maître, l'hystérique s'autorise du désir du maître, et l'analyste s'autorise de soi-même. Bon, c'est exemplaire. Ah oui, alors voilà, j'ai deux questions. La première, tu parlais de cette loi grecque non écrite. Est-ce que tu fais un rapprochement avec les conséquences que l'on peut imaginer, est-ce que tu rapprocherais ça justement du fonctionnement anglo-saxon de la common law, puisque nous dans les pays latins on est régi, disons, par le droit dit romain, qui est une loi écrite. Les pays anglo-saxons sont régis par une loi non écrite. Oui,
je pense d'ailleurs que c'est je suppose que c'est du fait de que les anglo-saxons, plus rapidement que les Français, ont intégré de façon violente, brutale, l'idée du droit non écrit en août 1789. Ça a été révolutionnaire, ça a eu des effets révolutionnaires, puisque ça a dressé les partisans du droit naturel dans la rue, les sans-culottes, contre ceux qui défendaient le système royal, c'est-à-dire le droit divin. La Révolution française, c'était ça, le droit divin contre le droit naturel, qui brusquement était connu depuis des siècles par les érudits. Tous les salons d'Europe parlaient du droit naturel, mais ça n'était jamais arrivé dans le peuple. Un jour, du fait des Lumières, ça arrive dans le peuple français et ça fout un bordel. C'est plus dans les sénats, c'est dans le peuple. Le moine sans culotte découvre qu'il a des droits. Stupeur totale, on ne se rend pas compte aujourd'hui où ça paraît une banalité. Les Anglais, effectivement, l'empirisme anglais fait que depuis des siècles, ils ont évité un éclatement révolutionnaire. Il y a quand même un roi dont la tête a été coupée, mais ça s'est fait en douceur. Il n'y a pas eu véritablement de mouvement révolutionnaire. Parce que je connais pas assez l'histoire anglaise qui a prédisposé les Anglais par le Parlement, à être assez Locke, qui était un philosophe très populaire, mais pas seulement dans des élites comme en France, dans tous les étudiants. Locke était connu, et Locke, effectivement, a rendu transmissibles les présocratiques, Socrate, Antigone. Et bon, il y a une tradition, tu as raison de le...
Alors, la deuxième question porte sur Antigone. Je ne sais pas qui a inventé ce terme, mais je trouvais qu'il était intéressant de parler du complexe d'Antigone. Certains connaissent peut-être d'où ça vient. Justement, la question que je me pose, est-ce que ça prend en contre-pied ce que tu dis, ou est-ce que ça va dans le même sens? J'ai eu un peu de mal à le saisir. En ceci que, d'après ce que j'en ai entendu dire, ce complexe qu'on appelle complexe d'Antigone correspond justement à cette femme qui, justement, refuse la loi, qui se place au-dessus de la loi de la cité. Bon, qu'elle soit juste ou pas, la loi de la cité de Créon, elle existe, elle est fondée par la cité, et Antigone, par une raison de loi, comme tu dis, loi naturelle, vient y contrevenir. Et avec comme prolongement, tel que j'ai pu l'entendre, de complexe d'Antigone comme étant justement la base du fonctionnement habituel dans les, on va dire, dans les banlieues, dans un certain nombre de lieux où justement il y a une non reconnaissance d'une loi sociale au profit d'une loi soit naturelle, soit au pire d'une loi mafieuse qui fonctionnerait dans un groupe sans présence de tiers.
Les sociologues qui parlent de complexe d'Antigone, on voit bien pourquoi ils peuvent en parler, mais manifestement, en s'appuyant sur l'histoire singulière d'Antigone, ils méconnaissent que Antigone n'est pas du tout n'est pas le centre. L'histoire d'Antigone pour les Grecs n'est pas le centre de cette révolte. C'est-à-dire que pour les Grecs, ce qui est fondamental, au-delà d'Antigone, c'est la structure tragique. C'est l'invention du dispositif tragique qui invente un dispositif où il y a un conflit tragique entre le héros grec, quel qu'il soit, que ce soit Antigone, Œdipe, Ajax, Éthéocle, Eurynome, quel qu'il soit, il y a le même conflit, c'est-à-dire le héros grec seul s'affronte au cœur. Le cœur défend la loi de la cité, le nomos, et contredit tout le temps, quelle que soit la pièce tragique, sauf peut-être chez Euripide, car chez les deux grands tragiques, Eschyle et Sophocle, le cœur est effrayé du fait que l'acteur, eh bien, quel qu'il soit, outrepasse la loi de la cité. Et non, outrepasse la loi de la cité, et au nom, en général, de la loi non écrite. Mais, si on veut comprendre d'où vient cette opposition entre le cœur et l'acteur, il faut comprendre, ça tombe pas du ciel. C'était un acte historique qui se passe en Grèce au VIe siècle, où un auteur grec a eu l'idée de transformer un rite religieux, le rite dionysiaque, qui était un chœur uniquement de corybantes qui chantaient et dansaient la passion de Dionysos. Et un jour, il y a un type qui a eu l'idée de prendre ce chœur chantant, d'arracher un élément du chœur, l'arrachant au cœur et de le mettre face au cœur, de cesser de chanter pour commencer à parler. Et cet élément qui vient face au cœur, c'est ça l'origine, le héros, quoi qu'il dise, c'est le héros, et la signification de la tension entre le cœur et l'acteur, c'est qu'à partir du moment où le cœur est amputé d'un de ses membres, l'acteur symbolise le moins un, symbolise ce qui fait que dorénavant le cœur est manquant, souffre, il n'arrête pas de se lamenter. C'est un béni oui, assez chiant d'ailleurs. Il se lamente. Mais originairement, on peut penser, il souffre, parce qu'à l'origine, le cœur était plein de lui-même. Son unité représentait l'unité mystique du Dieu. Il représentait le Dieu. Et c'est en cela que le tragique, l'invention tragique extraordinaire, c'est une grande invention laïque, de désacralisation d'un cœur sacré, plein, par l'introduction d'une faille, et d'un sujet qui seul va soutenir que l'autre est manquant, sans du tout le plaindre, et qui va soutenir que ce à quoi il se réfère, qui sans doute est cette séparation étrange, c'est une autre loi que la loi du cœur. Je crois que c'est important de repérer que l'acteur grec, le héros, est l'ancêtre de l'hérétique. Ça nous intéresse parce que, d'une part, quand les pères de l'Église ont défini un hérétique, parmi les grands hérétiques, outre la femme, le juif et Luther, il y a l'acteur. quel qu'il soit, quoi qu'il joue, l'acteur pour l'Église est un hérétique. Et ça nous intéresse parce que moi j'aime énormément la façon dont Lacan définit le sujet de l'inconscient, se définit lui-même comme un hérétique. Le sujet de l'inconscient est un hérétique.
Oui, et donc c'est le moins un qui devient l'homme moins un.
Voilà.
Il est 5. Est-ce que vous voulez 10 minutes de questions dans la salle? Oui.
Alors, c'est par rapport à la loi non écrite. Je voulais simplement rappeler qu'à Sparte aussi, la loi est orale, mais je pense que ce n'est pas du tout la loi au sens que vous entendez dans les sens tragiques de l'Antigone. Et après, notamment toujours par rapport à cette problématique tout droit naturelle que vous dites, la loi non écrite, équilibre des forces contradictoires, je voulais prendre un autre concept de la philosophie pré-socratique d'Héraclite, qui c'est le logos. Et moi là j'en fais une lecture heideggerienne, c'est-à-dire le logos vu comme rassemblement des forces antagonistes. Alors, dans cette idée quand même, la contradiction n'est pas dépassée. Ce n'est pas un équilibre. Le déséquilibre reste quelque part. Alors je me demandais si on pouvait, d'ailleurs, bon, selon l'interprétation qu'il en fait à Heidegger, il n'y a pas de contradiction entre logos et physis notamment. Le logos comprend aussi la physis. Donc ma question est, si on pourrait lire l'acte de Freud, ce fameux oui dont vous parlez de Freud, dans ce sens-là. Parce qu'il me paraît que ça va plus dans ce sens, au sens que dire oui, ça n'exclut pas les noms de l'autre côté. Dire to be, ça n'exclut pas qu'il y ait quand même une scène de not to be en même temps.
Bien sûr, le to be, s'il a un sens, et si c'est un pari, c'est précisément parce que le not to be n'est pas exclu, mais amplifié. C'est parce que, comme je disais, c'est ça que Lacan a essayé d'écrire S de grand abarré, c'est l'articulation du to be et du not to be. Et la force du to be, c'est d'être une métaphore du not to be. J'ai donné une image qui m'est apparue un jour pour concevoir comme de façon pratique ce mouvement de ce conflit. Je voyais un jour des surfeurs devant moi. Et je me suis dit, je vais les surfeurs sur une vague. Je me disais, la vague, c'est la puissance du signifiant qui vient à l'homme. Le flot puissant du signifiant qui vient à l'homme. Et l'homme, une partie de l'homme, est récepteur, reçoit ce flot puissant du récepteur. Beyaung, oui. Mais en même temps, c'est ça l'énigme, ce surfeur, s'il bouge sur la vague, c'est parce qu'il rejette ce qu'il reçoit. Il rejette ce flot avec ses jambes. Il le rejette et c'est parce qu'il a le pouvoir, là, en tant qu'émetteur, d'être, faire l'action de rejeter Ausstoßung qu'apparaît, selon moi, le mouvement. Et à mon sens, c'est peut-être ça qui donne un goût, le goût que parfois on ressent de la liberté, qui n'est pas toujours un vain mot. Quand nous recevons, nous sentons une possibilité de liberté, je pense que c'est quand nous percevons en nous et le déterminisme qui agit en nous comme la vague de signifiant que nous sommes agis, déterminés, et qu'en même temps, il y a en nous quelque chose qui n'est pas agi, mais qui agit et qui rejette. Comme une fleur reçoit et rejette la lumière. Ça paraît étrange, mais je crois qu'il y a des raisons de, si on veut aujourd'hui penser ou repenser le sens de ce qu'on appelle le droit naturel, c'est-à-dire, en somme, tous les droits naturels, reviennent au même, reviennent au droit d'exister. Si on veut le repenser, nous avons deux champs par la psychanalyse. Le premier point que la psychanalyse nous enseigne, c'est que dès qu'un sujet parle, commence à parler, ce qu'on entend, c'est qu'il y a une voix, on va l'appeler le surmoi. La voix du surmoi lui dit, tu n'es pas libre, tu n'es pas égal, tu n'es pas fraternel. C'est-à-dire que l'idée des droits de l'homme, ça naît sur le divan par la négation de ses droits. Ça, c'est la première voie par laquelle on découvre, par la forclusion des droits de l'homme. Et l'autre voie, c'est de comprendre pourquoi il y a une telle angoisse, crainte, mais là, j'ai pas le temps de faire un séminaire entier pour parler de la crainte biblique. Quel est le sens de la crainte au moment où le sujet a à procréer ce réel du oui-non? Pourquoi c'est si périlleux de créer ce réel sur lequel, après, pourquoi c'est si périlleux? Et pourquoi ça mérite de susciter la crainte? Je pense que c'est pas sans rapport avec la fréquentation de la liberté, qui est quelque chose qui n'est pas très aisé du tout.
Alors c'est très...
Excuse-moi. Ce que je voulais dire par rapport à ça, une des significations, ce qui nous a poussé un certain nombre d'amis à faire ce colloque, c'est de voir que si on est attaché à l'idée qui vient de la psychanalyse, qu'il y a un au-delà du déterminisme dans la psychanalyse. Quoique Freud était totalement pour le déterminisme, mais pas complètement, parce qu'il pensait le choix de la névrose. Donc s'il y a en nous, effectivement, nous sommes enclins à repérer un au-delà du déterminisme, la fréquentation d'un indéterminé que j'ai essayé de théoriser aujourd'hui, je crois que c'est difficile d'accepter que les droits de l'homme, aujourd'hui, sont totalement ridiculisés à l'ONU. Mais totalement. Par exemple, le Conseil des droits de l'homme, ne serait-ce que parce que le Conseil des droits de l'homme est confié aujourd'hui à 3 pays islamiques. C'est-à-dire qu'on voit qu'au nom des magouilles politiques, pour des histoires qu'on n'est pas obligé de connaître, l'ONU se peut ridiculiser. On n'est pas obligé d'accepter la façon dont ces droits de l'homme, si nous considérons que l'éthique de l'analyse nous enclin à les reformuler et à prendre au sérieux ce que c'est que le droit à l'existence, le droit à la parole, qui est la racine de tous les droits de l'homme. Les droits de l'homme, il y en a en 1789, il y en a en 18, en 1948, ça double, dans 10 ans, il n'y en aura plus. Ce qui ne cesse de ne pas s'écrire va tout le temps produire de nouveaux droits de l'homme, le droit qui n'était pas écrit. Mais, voilà, je reviens à cette idée qu'on vit dans un monde qui tend à ridiculiser, et je pense d'ailleurs que c'est pas complètement étranger le fait que dans la même semaine, les nazis ont brûlé les écrits de Freud et ont interdit les droits de l'homme. Les juristes allemands ont établi une juridiction de droit positif qui s'appuyait sur l'exclusion des droits de l'homme. Donc, des gens qui peuvent être nos adversaires perçoivent l'affinité qu'il y a entre la psychanalyse et l'essence du droit à l'existence.
Il y a plein de questions. Attends, juste un petit mot, c'est très amusant le rapprochement que tu fais avec le surf, parce que... lorsque le surfeur est trop éloigné et qu'il y a une très grosse vague qui arrive, il sent rien du tout. Il fait comme un bouchon. Il monte et il descend. Donc il n'est pas là où est l'énergie, on va dire. Par contre, quand il est au bon endroit, c'est comme s'il y avait une locomotive derrière lui. Hein. Et à ce moment-là, comme tu le dis, il le fuit parce qu'effectivement, ce qu'on ne se rend pas compte en le voyant, c'est qu'en fait, il descend une pente. Il descend une pente qui dure jusqu'à la plage.
Et il pousse combien de temps?
Il suit la pente. Il est dans la pente de ce qu'on pourrait appeler le signifiant, c'est du réel, disons. Oui.
Je voudrais savoir comment vous situez la question du désir ou de la jouissance incestueuse par rapport à l'acte d'Antigone.
J'ai pas pris le parti, ça c'est une des façons dont on peut traiter Antigone, ça a été fait, je ne vais pas le refaire. Il y a différents types d'interprétation d'Antigone, donc une des versions possibles d'interprétation, c'est celle que vous indiquez, c'est-à-dire fascination d'Antigone pour l'inceste. Je ne vais pas revenir puisque ça a déjà été fait par d'autres que moi, donc je vais...
Il me semble que tout de même c'est une question qui devrait être mieux traitée parce que, en prenant par exemple ce qu'a dit Jacques, ce sur quoi il a associé sur le droit anglais, enfin, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de ces questions, je ne sais pas dans quelle mesure les Anglais parlent de droit naturel, mais il faut savoir tout de même que la common law, c'est surtout parce qu'il y avait des juxtapositions de droits différents qui venaient de peuples envahisseurs différents, et que plutôt que d'unifier ça, ils avaient laissé à chacun leur droit, et que quand il fallait tout de même prendre une décision en acte, il se référait à un acte de justice, là, qui se faisait, je crois, au nom de la common law, mais qui, en fait, renvoyait plus à un formalisme dans l'esprit, enfin, en tout cas pour ce que j'en connaissais, qu'à l'idée d'un droit naturel. Donc, dans la mesure où on appuie la question du droit naturel sur Antigone et la loi non écrite, je trouve que ça mériterait d'être...
Là, j'avoue que je ne suis pas très connaisseur de la common law. C'est possible que ça soit... Je ne suis pas assez... Je connais bien plutôt Locke, mais qui est arrivé plus tardivement, qui lui est quelqu'un qui fait toute une théorie à l'époque où Guillaume d'Orange prend le pouvoir, où s'établit une royauté constitutionnelle. Effectivement, c'est à travers la pensée de Locke qui s'oppose point par point à Bossuet, qui attaque la question du droit divin en s'appuyant sur le droit naturel. Ça va être l'ancêtre de Rousseau, d'ailleurs. Mais avant Locke, je reconnais que la question du common law qui précède, peut-être, comme vous dites, ne s'appuie pas sur le droit naturel, c'est possible.
Il y avait une question par là, oui.
Oui,
Alain. La question que je me suis un moment posée, c'est après l'exemple du surfeur, l'exemple que tu as pris sur les fleurs, m'a fait demander si la liberté existait aussi dans la nature. Oui, seulement chez vous.
Je vous remercie de nous avoir posé la question.
Écoute, finalement, il y a des physiciens de la matière qui disent qu'il y a une sorte d'improbabilité. Enfin, tout ce qui est trait à la théorie quantique est une sorte d'improbabilité qui défie les lois des statistiques. Donc, il y a des gens qui soutiennent des choses pareilles. Je ne sais pas si c'est le mot liberté, mais en tout cas, il y a des idées modernes qui disent que finalement, l'évolution de la matière n'obéit pas strictement à un déterminisme, au déterminisme qu'Einstein souhaitait voir s'établir. Et ce qui a tourmenté la fin de sa vie, c'était ce dialogue qu'il a eu avec Heisenberg, avec les partisans de la physique quantique qui introduisaient le facteur d'un indéterminé qui contestait le déterminisme. C'est le grand débat, ça c'est le débat actuel.
Oui.
Donc, je vais m'autoriser à poser une question. Alors, vous avez dit au début que l'analyse donc s'autorisait de soi-même en s'appuyant sur la rencontre, sur un réel qui se rencontre entre crainte et jouissance. Alors, si je suppose que le sujet dans l'analyse a à faire l'épreuve de cette solitude qui lui permettra, au cours de l'analyse, à faire l'épreuve de solitude qui lui permettra surmonter cette crainte. Et alors, je voulais vous demander où vous placez la jouissance comme un obstacle, enfin, comme ce qui fait obstacle au surmontement de cette crainte, à l'assomption de cette solitude, et si vous postuliez ce qui fait grand débat, toujours aujourd'hui, une autre jouissance. que c'est, évidemment, que c'est, oui, une autre jouissance.
Je pense qu'une... oui, moi je pense... sans imiter Lacan, mais je pense un peu comme lui, que le destin d'une analyse est meilleur si l'analyste est animé d'un petit peu d'enthousiasme. qui est une forme de jouissance. C'est une forme de jouissance, l'enthousiasme, c'est sans cause.
Je pense aussi alors au terme joie.
Oui, joie. Joie, absolument.
Oui. Peut-être une dernière question, et puis on va, voilà, d'accord, Isabelle, Floch, et puis on va arrêter après. Plus fort.
Il me semble, ça va,
oui,
que grâce à votre exposé, j'ai mieux, me semble, compris cette phrase qui me semblait auparavant énigmatique de Lacan, qui était « Les analystes sont ou seraient les derniers héros tragiques. » Je pense que Lacan a dit que c'était un héros. Mais je voulais savoir,
un peu plus fort.
J'ai fait un rapprochement avec ce héros qui sort du cœur, qui s'extrait du cœur et qui fait manquer du coup ce cœur, qui commence à se plaindre. J'ai fait le rapprochement donc par rapport à l'analyste dernier tragique avec l'analyste en position d'entendre en fait le manque, d'entendre le manque de l'analyste et une plainte inhérente à ce manque. Sans le plaindre, voilà. Sans justement, en assumant finalement la couture, c'est-à-dire que d'affirmer le manque.
Oui. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai fait ce parallèle. Oui, je vous suis tout à fait. D'ailleurs, je vais donner un contre-exemple pour dire à quel point ça me paraît juste. Il m'est arrivé une fois dans ma vie d'entendre d'une analysante une expérience tellement douloureuse, mort d'un enfant dans des conditions atroces, que j'ai pas pu m'empêcher, face à face, de pleurer. Enfin, les larmes sont venues, elle s'est levée, absolument furieuse. Je l'ai jamais revue. Et c'est-à-dire, c'est extrêmement complexe, c'est-à-dire de, dans la position où nous sommes, d'assumer la position, cette position, qui est très justement, je crois, dite comme celle du retragique, qui n'est pas un indifférent qui pâtit, qui peut pâtir, mais effectivement sans passer par la pitié. La compassion, mais pas la pitié, ça c'est certain. Alors, il est évident que quand Lacan a dit ça, il a pu penser à juste titre... C'est lui qui a parlé des communications, d'hérétiques, quand il s'est identifié à Spinoza, le cœur de l'IPA. Donc, vraiment, dans l'histoire personnelle de Lacan, beaucoup de choses ont amené à l'idée de l'hérétique, de l'acteur qui fait l'acte de l'hérétique. L'acte de l'hérétique, si la scène n'est pas obscène, c'est-à-dire s'il y a une véritable coupure. Et l'acte de l'hérétique, ça me touche d'autant plus qu'à la fin de l'enseignement de Lacan, dans un temps où j'ai eu un dialogue public avec lui, c'est là-dessus qu'il m'avait demandé d'intervenir, c'est de dire en quoi l'analysant devient un hérétique. Là-dessus. Qu'est-ce qu'on voit là? L'hérétique, je voulais avant de quitter, parce qu'il y a des... Moi, je conseille souvent à des gens de rentrer... Parce que l'hérétique, c'est pas lui qui se tacle d'hérétique. L'hérétique, c'est le censeur qui a créé le mot. Il faut lire le manuel des hérétiques. C'est un livre extraordinaire. Extraordinaire. D'abord, c'est un livre... Les gens qui le lisaient, c'était sérieux, parce qu'ils avaient, pendant les procès, ils avaient sur les pages le manuel de l'inquisiteur, les questions et les réponses à poser, qui avait un enjeu certain, puisque si on aboutissait au diagnostic d'hérétique ou de sorcière, c'était le bûcher. C'est-à-dire que c'était vraiment un diagnostic très, très, très précis et délicat à poser. bien que les vérités se mettaient à l'abri, les inquisiteurs, en disant quand ils faisaient brûler des gens et qu'il y avait des débuts de contestation autour d'eux, ils disaient « Est-ce que vous croyez que Dieu laisserait faire ça ? Est-ce que vous croyez que Dieu laisserait faire une injustice ?» Voilà le genre de trait d'esprit qui n'était pas un trait d'esprit pour l'inquisiteur. Et une définition que je vous donne de l'hérétique donnée par Bossuet, parce qu'elle est plutôt très savoureuse, c'est une définition où il veut stigmatiser l'hérétique. Et voilà sa définition qui résume des centaines de pages. L'hérétique est celui qui considère que ce qu'il pense est intéressant.
Bon,
c'est l'acte de penser. Et le retour sur le fait.
Bon, ben écoutez, on remercie à nouveau Alain Didier-Vel. Et donc, on reprend à 14h30 précise, ce qui nous laisse une petite heure, une heure cinq. Pour déjeuner, on reprend avec Gérard Pommier à 14h30 précise, s'il vous plaît.
J'espère quand même.
Hein? J'espère.